Les chaudronniers de Coil Guns ne sont pas trop vieux pour ces bêtises, mais ils ont tout de même les genoux qui grincent. Ce qui ne change pas, c'est qu'ils s'aiment toujours aussi fort, et la musique aussi. Les voici au micro de Steve.
Un bras de nostalgie s'empare de nos furibonds préférés. Coil Guns sort son nouvel album Odd Love ce vendredi, précédé de plusieurs singles dont l'étrange The Wind to Wash the Pain. Clairement moins bourrin que d'habitude, un choix délibéré qui annonce peut-être la fin d'une ère. Parlons-en avec le guitariste et compositeur de la bande, Jonah, bonjour.
Salut Steve.
La fin d'une ère, quelle ère?
En tout cas, celle de l'ère où on a pas mal tout fait tout seul, puis on a eu l'impression d'arriver au maximum de ce qu'on pouvait faire techniquement et peut-être artistiquement sans avis extérieur. Après, la fin d'une ère, j'ai l'impression que ça reste un disque de Coil Guns, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a incorporé des éléments qu'il n'y avait pas avant et c'est sûr que le futur en aura plus, sans doute.
Ouais. En termes d'attention, il y a des choses qui ont évolué. Au début, il fallait tout casser. Maintenant, est-ce que ça a un peu changé?
Oui, parce qu'en cassant tout, on se fait mal au dos, par exemple. Et comme on devient vieux, il est temps de se calmer. Non, c'est clair que tout casser dans la musique et comme sur scène, tu vois, maintenant, ça fait aussi quelques années que... je trouve que jouer pour des gens qui ont un style de vie similaire et le même âge que nous, c'est cool. Mais là, ça fait plaisir d'imaginer que peut-être dans le futur, on puisse avoir des plus jeunes à nos concerts, des plus vieux aussi, qu'on puisse fédérer un peu plus chez les gens qui aiment la musique et pas juste qui aiment la musique bruitiste hyper expérimentale, quoi.
C'est vous, Jonah, qui composez les morceaux, qui les apportez ensuite au reste du groupe pour mettre tout ça en forme. Est-ce que vous sentiez déjà à ce moment-là que le vent tourner, c'est peut-être un grand mot, mais qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là.
Oui, complètement. C'est-à-dire que même la dernière tournée qu'on a fait en 2019, pour la sortie de notre précédent album, qui est sorti en novembre et qui après, il n'a plus existé parce qu'il y avait le Covid. Déjà à ce moment-là, moi j'avais une envie d'écrire, de la musique qui pourrait se jouer dans des salles plus grandes ou dans des festivals, par exemple. Ce qui est un truc qu'on faisait pas du tout avec Coil Guns. Et du coup, ça change quand même vachement la façon de composer, l'intention qui est mise dans certains détails de son et puis de composition, en fait. C'est un petit peu spécifique ou technique, mais c'est clair que t'écris pas la même chose si c'est pour jouer de la musique méga frontale dans des caves où il n'y a pas de système son, puis où c'est juste que du son de scène. Que quand tu veux jouer sur un grand système, tout réagit différemment. Puis oui, ça c'était dans ma tête quand j'écrivais.
Donc il est calibré pour les grandes scènes.
Eh ben en quelque sorte, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a des morceaux qu'on a écrits en résidence. Donc en résidence, ça veut dire qu'on est allé répéter, par exemple, dans la grande salle de la Casa Choc, avec tout le système allumé. Puis on a écrit des morceaux avec ça. Parce que quand tu fais boum boum sur la batterie dans une salle de 800 personnes avec un système allumé, ça sonne pas la même chose que quand tu fais boum boum dans une cave. Donc forcément, il y a des parties entières qui ont été écrites dans ce genre d'environnement. Et voilà, parce qu'on avait la volonté d'aller explorer des plus grandes scènes. Et puis c'est pas du tout la même chose, les plus grandes scènes. Même au niveau visuel, faut se dire que quand tu joues dans un festival, sur une scène où il y a une capacité de 12 000 personnes, les gens qui sont tout au fond, ils voient pas du tout la même chose que les gens qui sont tout devant. Donc du coup, même dans la façon de bouger, de mettre en visuel le show, tout est différent, quoi. Puis ça nous intéressait aussi parce que ça faisait 10 ans qu'on faisait la même chose, quoi.
Alors on rassure quand même les amoureux de musique vigoureuse. On va quand même retrouver sur cet album vos guitares énervées, vos feedbacks chaotiques, des cris bestiaux parfois. On reste quand même dans du Coil Guns.
Oui, tout à fait. Alors, on essaie tant bien que mal de se déguiser en groupe de rock, parce qu'en fait, nous, c'est ça qu'on pense être, tu vois. C'est comme, tu vois, il faut imaginer un dog allemand bébé, il pense juste que c'est un bébé, mais en fait, c'est quand même un chien qui fait 1m70, tu vois. Et donc, on est un peu là-dedans, parce que nous, on est un peu des mecs blancs avec des t-shirts et des jeans, tu vois, qui font de la guitare. Et voilà, et c'est comme ça qu'on aimerait se voir, et c'est comme ça qu'on a envie d'accueillir les gens sur scène, mais ça reste, sur cet album, il y a notamment les parties les plus rapides qu'on a jamais écrites, tu vois. C'est quand même très, très chaotique par moments, puis même le set live, tu parlais de feedback, donc il y a beaucoup de moments hyper chaotiques sur scène où on lance tout, puis on fait beaucoup de bruit, quoi.
Il y a notamment un piano qu'on peut entendre, vraiment piano tout simple, sans artifice, sur un des morceaux, Caravel, je crois. Et où ça part vraiment dans tous les sens. On a testé le piano.
on a testé le piano et c'est marrant parce que c'est un morceau qui a été débattu dans le groupe. Il faut savoir que quand même tout ce qu'on fait, il n'y a pas une note qu'on joue qui n'est pas validée par tout le monde, évidemment. Mais ce morceau, il a été débattu pas mal, notamment sur le fait que peut-être c'était un peu trop une balade. Donc pendant les longs mois où on l'a répété, ben, on s'est dit comment trouver une astuce pour le jouer pour que ça ressemble plus à un morceau de punk rock qu'à une balade. Et puis ben, tout d'un coup on s'est dit ben, faire n'importe quoi sur un piano, peut-être c'est bien. Et c'est Louis Jucquard qui s'en est chargé.
Et c'est bien.
Et c'est assez cool en effet, ouais.
Autre subtilité assez drôle, c'est sur le morceau Placeholders, vous avez ajouté des sifflements, ça fait un peu bidasse, ça m'a fait penser au pont sur la rivière Kouai. Est-ce que c'était l'idée ?
Alors, il faut savoir que déjà ce morceau, quand je l'ai écrit, parce que quand t'écris des morceaux dans un groupe, quand t'as pas les titres définitifs, tu donnes des titres de travail souvent cons. Hein, c'est un truc à l'intérieur des groupes de faire ça. Et puis moi déjà, j'avais mis des sons que tu peux entendre dans le morceau. On dirait qu'il y a un peu un mormon qui vient sonner à la porte comme ça. Et du coup, je l'avais appelé Albert le flûtiste. C'était son nom de travail. Et quand j'ai transmis ce morceau à l'équipe et que Louis a posé des voix, ben, d'un coup il est revenu avec ses sifflements, ce qui nous a un peu intrigué mais aussi mis beaucoup dans l'embarras au début. On savait pas trop quoi en faire en vrai, et finalement on s'est dit ben super, ce sera un super gimmick. En plus le morceau est bien, c'est un morceau qui est très rock je trouve, et surtout je sais pas si les gens, enfin je me réjouis que l'album sorte pour que les gens l'entendent, mais peut-être que certains vont pas, enfin peut-être que certaines personnes vont pas faire le lien, mais en fait, toute la partie de voix hyper chantée qui est à la fin, là, scandée comme un hymne de foot, à peu près, eh ben, c'est la même chose que les sifflements au début. Et ça, je trouve que c'est très fort, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Louis Jucquard. Il nous surprend toujours.
Jonah, guitariste de Colgun, vous ne bougez pas, on revient vous voir dans un instant pour la suite de l'interview. On va juste écouter un premier extrait de cet album. C'est le morceau The Wind to Wash the Pain, un fameux titre lancinant. Surprise du disque par son calme et sa fragilité, Colguns. The Wind to Wash the Pain, morceau étonnamment introspectif de Colguns, issu de leur nouvel album Odd Love, qui sortira vendredi, mais un album qui est plein de surprises, sur lequel le groupe s'est bien amusé. Jonah, guitariste, est toujours avec nous. Jonah, c'est votre quatrième album, et le premier pour lequel vous n'avez pas tout bricolé vous-même, en do it yourself. Vous êtes allé en studio avec des techniciens d'apparat. Racontez-nous.
Eh bien, voilà. Déjà, on voulait pas faire ça à la maison. On a rarement fait les disques à la maison, mais on a toujours soit construit des studios ailleurs, soit loué des studios de potes, voilà. Avec des deadlines, fallait tout faire en 4 semaines et tout ça. Là, on s'est dit... Bon, déjà, on s'est pas dit. On n'a pas eu le choix, pour commencer. Covid oblige de travailler sur l'album. Donc, c'est la première fois qu'on a pris le temps d'écrire un album et de le répéter et tout ça. Et puis après, pour rigoler, une fois, Luc, il a envoyé un lien vers ce studio de rêve en Norvège où on est allé. Mais c'était pour déconner, tu vois. Mais moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc j'ai un peu creusé, puis en fait, c'était possible de le faire, quoi. Et donc, non seulement on a décidé de partir là-bas, mais en plus, on a décidé de se déresponsabiliser de toute considération technique, puis ça, c'était vraiment une volonté. C'est-à-dire faire venir quelqu'un qui s'occupe de tout, puis nous, on fait que de jouer, en gros. Donc toute la partie, merde, faut brancher ce machin-là pour faire fonctionner cet appareil-là, c'est toi qui presse pour enregistrer, poète, tout ça, et eh ben ça n'existait pas. Et puis pour ça, on a fait venir quelqu'un qui est devenu un copain, du coup, mais qui ne l'était pas à la base. C'est un producteur américain qui s'appelle Scott Evans, qui joue dans plein de groupes qu'on adore. Et puis, voilà, c'était trop bien de, une fois, travailler avec l'Amérique aussi. Parce que c'est, enfin, de notre expérience, d'avoir travaillé avec personne d'autre, de toute façon. Enfin, je veux dire, on a eu tourné avec des groupes américains, donc on voit aussi l'atmosphère, puis un peu l'éthique de travail. C'est vraiment... Enfin, c'était vraiment un super bosseur, toujours debout avant nous, toujours couché après nous. Tout était prêt tout le temps, il était aux petits oignons. Et ça, c'était vraiment super. Et ça a largement contribué à ce qu'on puisse faire ce bon disque. En plus qu'il avait des conseils et des inputs hyper pertinents. Je suis pas sûr que même si le prochain disque, on le fait quand même à la maison, ce qui est impossible que ce soit ça, eh bien, je pense que ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui s'occupe de la partie technique, parce que c'est vraiment une grosse charge. Puis là, ça nous a bien permis de nous focusser, de nous concentrer sur faire de la musique.
Vous avez ensuite demandé à Tom Dalghetty, nominé au Grammy Awards quand même, de vous faire le mix du disque. Du coup, on se refuse rien là, on est allé à fond à tous les niveaux.
C'est ça, c'est ça. Mais un peu comme tout ce qu'on fait dans la vie de manière générale, l'équipe là, c'est tout ou rien. Et donc, comme le but c'était un peu de casser nos propres codes, tu vois, avec ce disque, à savoir, tu vois, je sais pas comment on peut dire, intégrer des sifflements, mais plus largement... aller faire un disque ailleurs avec quelqu'un, pas tout faire à la maison, prendre le temps de le faire, utiliser une photo en couleur pour la pochette plutôt qu'une illustration en noir et blanc, ça va vraiment aussi loin que ça. Donc on a vraiment décidé de tout faire à l'envers. Puis comme on a eu l'impression d'avoir tapé au plafond de ce qu'on pouvait faire tout seul, on s'est dit, on va bosser avec des gens, tant qu'à faire, bossons avec des gens, quoi. Et aussi, on n'a pas 20 ans non plus, donc on s'est dit, on essaye de faire différemment, mais on fait tout très différemment, puis on fait tout à fond. On fait mixer le disque, on fait mixer le disque par une star du mix, tu vois. Puis on verra ce que ça fait, puis en fait, si au final ça change rien, tu vois, on aura fait ce disque et il sonne super, et puis on sera très content de retourner à mixer des disques nous-mêmes s'il faut.
Qu'est-ce qui reste de Cold Guns, du coup, si tout a été changé, revisité ?
Exactement là où on est à ce moment précis. Donc du coup, Cold Guns, c'est ce que c'est maintenant, à savoir, c'est un groupe qui travaille avec des gens, qui prend du temps pour écrire des disques, et voilà. Après, je pense que la substance, le côté un peu animal de Cold Guns, il est là, à travers le disque, il est là, toujours sur scène. Je veux dire, on a quand même supervisé tout, que ce soit le mix, le mastering, l'imagerie, tout ça, c'est quand même toutes des impulses de notre part. C'est juste quand tu travailles avec d'autres gens, soudainement, c'est pas toi qui... décide.
Tu dois les communiquer et puis ensuite elles sont interprétées.
Exactement. Et ça, c'est vraiment fou parce que du coup, tu vois, typiquement le mix qui est quand même une étape méga importante, toi tu donnes un peu une idée, des pistes témoins. En gros, tu dis nous on a l'impression que ça sonnerait bien comme ça. Et puis la personne reçoit les pistes et puis en fait, ce qui pour toi était un vieux synthé qui traînait au fond, qui était censé être un petit ajout, tout d'un coup ça devient un synthé principal. Donc tu reçois ton mix, t'es là, waouh! C'est un nouveau morceau, puis après t'as le choix d'accepter ou pas. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est reconnu dans ce milieu-là qu'il accepte pas du tout les retours. On a fait beaucoup d'allers-retours, donc c'est aussi notre mix, et on a fait 2 mois de mix nous avant pour donner des intentions de routing, de comment faire les choses.
Parlons visuel. Tout d'abord, on va parler de la pochette de l'album parce qu'elle est liée justement à ce vagabondage nordique. Et ensuite, on abordera le clip où Louis Jucquet est devenu soudainement vieux. Donc, la pochette, elle évoque le Slining Ballet, qui est cette tradition dans un patelin de Norvège où les jeunes construisent une énorme tour en palette et y mettent le feu. Ça prend des proportions gigantesques. Et vous avez photographié la fin de cet événement de cette année. Vous y étiez, en fait.
Oui, tout à fait. Donc c'est un ancien rituel païen qui a survécu à l'arrivée du christianisme en Norvège. Et en fait, on est très peu sortis. On était vraiment en mode boulot, donc on sortait pas. En plus, qu'est-ce qu'on s'en foutait ? Le studio était sur la plage face à l'océan, puis on avait un jacuzzi et des chambres pour dormir, donc aucune raison de sortir, quoi.
Il est quand même bien, ce studio.
Il est assez ouf, ouais. Tout à fait. Ouais, et puis bon, sur une île de 400 ou 500 habitants, donc sortir, c'était tout de suite chiant. Mais un jour, on s'est dit, il y a ce truc... il faut qu'on aille voir. Et donc, on est allé, et c'est marrant parce que vraiment, c'est au bord d'un port, quoi. Et puis, il faut savoir qu'en Norvège, ils sont assez stricts avec l'alcool dans les rues, même dans les bars d'ailleurs. C'est pas vraiment. Ça peut être très compliqué d'être sous dans un bar. Tu peux vite te faire mettre dehors et tout. Et ça, c'est le moment où tout le monde pète un câble, apparemment. Et donc ils construisent cette palette, cette tour de palette de, je sais pas, 40 mètres de haut, j'en sais rien, c'est hyper haut. Il y a plein de bateaux autour, puis ils foutent le feu, je sais pas, en début d'après-midi. Et puis le moment phare, c'est quand le brasier s'écroule. Donc nous, on est arrivé, on l'a entendu s'écrouler, on est arrivé quelques minutes après, on était sur le chemin, on l'a entendu s'écrouler, puis on est arrivé une espèce de truc où il y a vraiment tellement des centaines de gens qui sont bêtes et ivres morts. Et puis le moment où le brasier se pète la gueule, en fait, et ben là, tout un tas de jeunes téméraires partent à la nage ou sur des trucs. Enfin, ça ressemblait un peu à Mad Max, dans le sens où il y avait un peu des baignoires et des frigos dans l'eau, puis les gens se tiraient avec des cordes pour aller jusqu'au feu, puis aller pisser dedans. Voilà. Et puis nous, comme on avait engagé un pote vidéaste français qui documentait tout le voyage qu'on a fait, tout le studio et tout, bon, il a pris quelques photos. Il est allé au bord du brasier aussi. Puis d'un coup, il a pris la photo de ce gars qui est en train de pisser sur le feu. Image complètement absurde, qui prend une toute autre allure. En plus, quand tu la lis de l'extérieur, tu vois, il y a un peu ce côté hyper dramatique de cette photo, cet immense feu. Ce gars qui a l'air presque de se prendre la tête à deux mains, en fait, il est juste en train de tenir son instrument pour uriner dans le feu. Et voilà, ça nous a paru assez évident que l'image était assez forte et représentative. Et en plus, comme on aime bien faire de la permaculture dans nos trucs, on s'est dit, c'est super, parce qu'on a fait tout ce voyage de ouf, ensemble. On est en Norvège, puis la pochette de notre album, ce sera ça.
C'est les photos de vacances, en fait.
C'est carrément les photos de vacances. Et c'est bien le seul moment où le gars qui documentait tout ça n'était pas en train de bosser, normalement. Ouais. Enfin, il a pris son appareil, parce qu'il le prend tout le temps, mais c'est dans la même pellicule. Tu vois, on a des photos de lui en face du feu qui fait des pouces, quoi. Donc, donc, c'était pas du tout prévu que ce soit ça.
Et pourtant... On l'a dit, plusieurs clips sont sortis, certains tirés de concerts, d'autres de vos sessions d'enregistrement justement à l'Ocean Sound Studio en Norvège. Et il y a un clip un peu plus narratif, c'est celui du morceau Generic Skincare, dans lequel Louis Jucker, votre chanteur, est vieux. Il a au moins 1000 ans. Est-ce que c'est une ode aux rides?
C'est une ode en tout cas aux rides que ce que ça peut créer d'être dans un groupe à temps plein, je crois. Et d'ailleurs, en fait, outre le côté un petit peu science-fiction du clip, qui fait qu'il n'est pas très explicable non plus, comme tout dans ce disque est notre rapport un petit peu à la musique, au business dans lequel on évolue, comment on a trouvé ou pas d'ailleurs notre place là au milieu, et puis pourquoi on continue de faire ça, alors qu'en fait c'est vraiment bête. Enfin, il n'y a rien qui rend logique et pertinent le fait de continuer à faire ça. D'autant plus qu'on devient de plus en plus vieux, puis qu'en fait, on croit toujours qu'on est jeune, tu vois, en faisant ça. Et l'album, il traite pas mal de ça. Et Generic Skincare, c'est, bien sûr, on peut lui attribuer tout un tas d'interprétations. Les paroles, c'est libre à chacun de les interpréter. Il y a un rapport, définitivement, au fait de devenir plus vieux. Et puis, au final, on s'est dit... Aussi, de faire un clip, c'est cool. On voulait une fois apparaître dans un clip, mais on voulait pas faire les acteurs, on sait pas faire ça. Donc, on a dû se mettre un peu dans nos propres rôles, à savoir une journée dans la vie de Cole Guns, quoi. C'était un peu ce clip, c'est un peu une journée de répète de Cole Guns, puis juste Louis qui vieillit à travers le set, à travers le clip, quoi. Et c'est pas, il a pas 1000 ans. Je crois qu'il y a un maquillage, c'est 85 ans, l'autre c'est 65, et l'autre c'est 45.
Ah ouais, d'accord, il y a différents niveaux.
Ah là, on a fait grosse prod, on a engagé une boîte d'effets spéciaux et tout. C'était 2h30, 3h de maquillage le matin pour Louis.
Wow. Il y a quand même, alors, question de fouille merde. Vous êtes un groupe de 4 dans une séquence du clip, on vous voit tous d'ailleurs en voiture. C'est vous, Jonin, qui conduisez et vos 3 compères sont à l'arrière. Pourquoi personne n'est sur le siège du passager?
C'est vraiment une question à la con, parce que... Tu sais déjà la réponse en plus. Forcément, il y a un gars qui filmait, qui était assis à côté de moi et qui fait pas partie du groupe du coup. Mais aussi, on pourrait dire que c'est aussi une belle image parce que quelque part, je m'occupe du groupe. Tu vois, c'est moi qui fais le management et avec d'autres gens, mais c'est moi qui m'occupe au quotidien du groupe. Donc c'est un petit peu mes enfants. Alors ils étaient derrière, puis je les amenais au bac à sable, quoi.
Il y a un peu cette image-là, quoi. Sauf qu'il y en a qu'à 1000 ans. Pour terminer, parlons concert, parlons date, un petit peu tout ce qui nous attend pour le futur, Jonin.
Oui, on va faire, c'est pas dans le cadre de Cole Guns, mais le 21 novembre, on fait un apéro houmous chez Discabrac à Lausanne, on va présenter toutes les nouvelles sorties, dont le disque de Cole Guns. On va faire la même chose le 23 novembre à la Casa Choc, où il y a d'ailleurs Léa Martinez qui joue, et ça c'est super. Et ensuite, on fait quasiment pas de date, en fait. On joue à la Humus Fest à Nyon, le 7 décembre, avec Astral Compost, Crème Solaire, Louis Jukerelnek, Wolfer, voilà. Et ensuite, oui, on joue au M4 Music, en mars 2025. Et, je sais pas si j'ai le droit de dire, je m'en fous, on va faire notre vernissage officiel au Frisson, le 10 mai. Voilà. Et je crois qu'on fait un autre festival en Suisse avant ça que j'ai pas le droit d'annoncer, mais ce sera les seules dates suisses qu'on fait jusqu'à l'été.
Ça va, on a déjà un bon petit programme, on va pouvoir s'en contenter. Cela dit, est-ce que sur scène vous allez construire une tour de palettes ?
Non, et d'ailleurs, pour la Humus Fest, on voulait faire un gigantesque brasier devant le club, mais on a eu le directeur technique qui a dit non. Hier, mais on avait déjà engagé des gens pour faire un grand feu, alors on est hyper triste. Mais par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est d'avoir des fonds de scène, donc des espèces de grands drapeaux en fond de scène, et il y a une allumette avec un cœur.
Waouh ! On pourra pisser dessus ?
Ben, préférablement pas, et je pense que ce serait vachement le challenge parce que ça fait quand même 4 mètres de haut, donc à vous d'essayer, mais pas trop chaud, quoi.
À vos risques et périls. Merci beaucoup, Jonah.
Merci à toi, Steve.
Guitariste de Cold Guns qui venait nous raconter Odd Love, le nouvel album des Chaudes-Fauniers qui sortira ce vendredi. On se quitte avec un deuxième extrait, la chanson du vieux Louis, générique skincare.